pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
En fonction des fleurs, on peut avoir des goûts complètement différents et une diversité de couleurs, de textures et tout. C'est tout ça qui a fait que le miel, c'est merveilleux.
Une production de qualité à l'image de l'apiculture française, qui produit pourtant de moins en moins. L'an dernier, 9000 tonnes seulement. Conséquence, on a importé 31 000 tonnes.
Celui-là, qui est marqué donc mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne, il y a une présence importante de grains d'amidon dedans. C'est pas normal de le trouver. Et ça, ça implique obligatoirement qu'il y ait des ajouts de sirop de sucre.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Quel miel tartinez-vous en ce moment sur vos toasts en écoutant France Inter? Du miel naturel produit par nos amis les abeilles ou une pâle copie à base de sirop de sucre produit par des chimistes chinois? Produit frelaté, insuffisance des contrôles et problèmes d'étiquetage sur les pots de supermarché, sans compter évidemment la mortalité très préoccupante des abeilles. SOS, miel en danger, c'est le cri d'alarme qu'on pousse aujourd'hui dans notre émission. On met les pieds dans le pot avec nos deux invités. Béatrice Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service économie de l'hebdomadaire L'Express et vous signez avec François Roche Le miel, enquête sur le nouvel or jaune, édition François Bourin, un document qui explore la face cachée et assez peu reluisante du miel. Vous êtes également apicultrice. Apicultrice du dimanche, ça
voilà,
vous va comme définition ou pas?
Apicultrice du dimanche, parfait.
En plus de votre métier de journaliste, vous êtes aussi violoniste.
Oui, oui,
vous avez
tout,
une vie bien remplie.
En...
Et tout en miel. Et ça se passe dans le Val-de-Marne, à Cachan.
À Cachan.
Très bien. L'idée dans cette émission, c'est aussi, évidemment, vous nous connaissez, de se faire plaisir avec des produits rares et exceptionnels, preuve que le vrai miel artisanal existe encore. Et notamment grâce à Julien Henry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Maison du Miel, 24 rue Vignon, Paris 9e. Une vieille boutique pleine de charme, je crois même qu'elle est classée.
Elle est classée, elle existe depuis 1898.
C'est un des plus vieux commerces de Paris, en fait.
Un des plus vieux commerces de Paris.
Et vous signez Les Merveilles du Miel chez Tana Édition, avec les textes de la journaliste qu'on connaît bien, Camille Labro. Vous nous avez apporté quelques raretés à déguster. De belles surprises vont jalonner cette émission. Notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour.
Du miel dans nos verres?
Ah oui, et puis je suis apiculteur, comme le chantait Vachoum.
C'est ça, du miel. Et bien écoutez, on est ravis. Donc on imagine des vins avec des arômes assez miellés. Notre chroniqueur Arnaud Daguin est également de la partie. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Pour votre billet intitulé Le coup de l'âme, c'est bien ça?
Un petit coup d'aile aujourd'hui.
Ah, coup d'aile. Bzzz. Derrière la console, Laurent Thomas, Fabrice Desmaz et Nadia Chougui pour retrouver toutes nos infos et le podcast de l'émission. Franceinter.fr, à la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Soyez à l'écoute les amis, si je vous dis gingerbread. Avec l'accent, enfin du moins on essaye. Gingerbread. Ginger, gingembre. Bread. Pain. Bon, un pain au gingembre. C'est, pour faire court, le cousin anglais de notre fameux pain d'épices. À quelques différences près tout de même, on sent dans le gingerbread une dominante donc de gingembre en poudre, alors que le pain d'épices français joue plutôt l'équilibre des épices, avec peut-être un petit peu plus d'anis vert, une note anisée un peu plus forte. Autre différence de taille, elle vous concerne, chers invités, beaucoup de miel dans notre pain d'épices, c'est l'une des bases d'ailleurs de cette recette. Tiens, tiens, j'aperçois justement un très beau pain d'épices qui nous fait de l'œil, il a été concocté par Julien Henry. Hein?
Tout à fait.
On a la recette tout à l'heure, par votre femme, qui s'appelle
Virginie.
Merci Virginie. Enfin, merci, on vous remerciera s'il est bon. On va voir ça dans un instant, mais en tout cas, on vous promet la recette dans la suite de cette émission. Je disais donc qu'il y a du miel dans le pain d'épices français, alors que c'est pas vraiment une tradition, le miel outre-Manche. Il paraît qu'il peut tellement que les abeilles ne veulent pas mettre le nez dehors. Non, je rigole. Mais il y a peu de miel quand même produit en Angleterre, vous confirmez ?
Il y en a un peu, mais pas énormément.
Pas énormément. Pour sucrer le gingerbread, historiquement, on utilise plutôt ce qu'on appelle... Le treacle, c'est de la mélasse, un épais sirop de sucre, vous savez, marronasse, résultat du raffinage de la betterave à sucre ou de la canne à sucre. Et cette mélasse donne d'ailleurs une couleur très sombre à ce gingerbread. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de gingerbread? Car j'en ai dégusté une redoutable version, non pas à London, avec le petit doigt en l'air au-dessus de my cup of tea, mais en plein centre de Paris, dans le quartier Opéra, dans une British brasserie. C'est comme ça que le patron Oliver Woodhead qualifie son nouvel établissement, tout près d'Opéra. Cette adresse s'appelle l'entente. Et je vous laisse imaginer qu'elle est plutôt cordiale, cette entente, dans le décor comme dans l'assiette, avec toute la panoplie des British dishes, le Welsh rabbit, le shepherd's pie, le gingerbread donc, qu'on peut déguster à la table, du breakfast, du brunch, du lunch, du tea time, à toute heure de la journée, de 8h à minuit, vous trouvez ce gingerbread. Imaginez une tranche épaisse d'un gros pain d'épices anglais, donc bien sombre, superbement moelleux, dopé au ginger, bien sûr, mais également à la cannelle, clou de girofle, noix de muscade, un peu d'anis, beaucoup de beurre, de la mélasse, des œufs, de la farine, une pointe de sel. So, so good. Et toute la perversité de ce dessert, c'est que 1. Il est légèrement toasté, donc un peu chaud, croustillant sur les bords. 2. Coiffé d'une grosse quenelle de crème crue, française. 3. Généreusement nappé de butterscotch sauce. Vous savez, c'est cette sauce au caramel. Non, je t'ai plus. C'est un truc totalement orgiaque. C'est bon. Ça coûte 10 euros. Bon, oui, effectivement, faut craquer un billet de 10 euros pour ce dessert servi à l'assiette toute la journée dans cette British brasserie, l'entente, que je vous invite à découvrir. 13 rue Monsigny, Paris 2e. Et dites-leur Happy New Year de la part dont on va déguster.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, mais depuis, oh, un jour plus rien ne meurt jamais, toute l'eau stagne dans le puits, on revient seul dans la forêt. Se mettre à l'abri, même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis.
Toute l'attitude, c'est le nouveau titre de Dominica et on revendique haut et fort notre amour de Dominica dans l'émission. Merci Djoubaka d'avoir choisi ce nouveau titre. On va déguster Et tout miel en ce dimanche 14 janvier. Alors histoire de ne pas perdre espoir dans le paysage, pas toujours idyllique, on va le voir, du miel. Commençons par ce qui se fait de mieux. Un coup de cœur que nous apporte, ou plutôt une petite surprise gourmande qui est aussi un coup de cœur, de Julien Henry, directeur de la Maison du Miel. Vous avez fait circuler une assiette en carton avec un drôle d'objet doré qui ressemble à une espèce de lingot naturel. Petit tour de table.
C'est un peu ça.
Béatrice, Mathieu, qu'en pensez-vous ?
Ça, c'est un souvenir fabuleux quand on prend dans ce que j'appelle le gâteau dans la bouche et donc le miel est extrait des alvéoles, comme ça, se sépare.
Ça, c'est l'apicultrice qui parle.
Et ça, c'est un plaisir intense.
Gâteau, c'est le terme technique pour désigner un morceau de rayon.
Moi, j'appelle ça, mais je
il y en a plusieurs. Si en région, on peut appeler ça gâteau de miel, miel en brèche, miel en rayon. Enfin voilà, il y a plusieurs termes.
Ah oui,
voilà.
Joli champ lexical.
Tout est accepté. Oui, tout à fait.
Et après, la cire s'amalgame dans la bouche. Il y a une phénomène chimique qui se passe, et donc le miel coule dans la gorge et c'est fabuleux. Donc moi, j'ai goûté le troisième. On dirait presque du. Il y a de la bruyère, du pain, du sapin.
Ah oui, car il y a trois échantillons. Est-ce qu'elle est sur la bonne piste pour le troisième échantillon?
C'est plutôt bruyère. C'est un miel de montagne. Ouais. Mais voilà. Un miel de montagne, donc qui vient du Rhône-Alpes, Saint-Nizier d'Azergues, exactement.
D'accord.
Et miel de printemps. Mm-hmm. Et donc, justement, on peut retrouver.
Petite réaction, Arnaud.
C'est une foule de sensations qu'on a avec un morceau comme ça. Donc, d'abord, il y a évidemment le goût lui-même de ce miel qui est formidable, qui n'a pas été touché du tout. Du coup,
il est
parfaitement intact. Mm-hmm. Il y a effectivement cette texture qui cède comme ça. Et puis, après deux ou trois coups de mastication, on se retrouve avec une espèce de chewing-gum sympathique qui va se déliter petit à petit et qui libère d'autres arômes encore. Parce que je pense que sur cette cire-là, il doit y avoir quelques trucs peu différents du miel.
Monsieur Chauve, c'est le cas de le dire.
De temps en temps font péter un arôme ou deux dans le palais, c'est absolument formidable.
Et d'ailleurs, vous l'avez avalé ou pas, Arnaud ?
Oui, le premier, oui, le deuxième, non, parce que sinon j'aurais pas pu parler. Là.
C'est ça. Non, mais est-ce qu'on a le droit d'avaler ce petit chewing-gum qui finit, c'est de la cire
On a le droit de l'avaler, c'est très bon pour les voies respiratoires. Et après, il faut que le miel en rayon soit bien fait. Mais
voilà, on approche.
Celui-là m'a pas posé de problème.
Petite réaction d'Antoine Gerbel ?
Tout de suite, on rentre dans cette variété de goûts. Et moi, tout de suite, j'associe à des accords. J'ai l'impression que j'ai trois familles de goûts et de puissances de goûts différentes. Donc, j'imagine qu'on va avoir des utilisations, des usages différents.
Absolument. On a compris que c'était un miel pur, un miel à l'état brut, un miel en rayon. Simplement, cette petite fantaisie, on la voit de plus en plus, le miel brut dans des épiceries spécialisées, c'est-à-dire en gros les alvéoles hexagonales remplies de miel, le miel à l'état brut, tel qu'il sort de la ruche finalement. Mais celui-ci, les échantillons que vous nous avez apportés, ont une valeur ajoutée supplémentaire.
Un peu particulière, oui. C'est un travail qu'on a fait avec un apiculteur lyonnais qui s'appelle Florent Guillot et que je salue. Mm-hmm. On est consommateur de miel et de miel en rayon parce que c'est le produit brut qui n'a pas été transformé, c'est génial. Mais on s'est rendu compte que la mâche de la cire justement pouvait de temps en temps être gênante. Il faut savoir que les apiculteurs, quand ils pratiquent l'apiculture, font du miel, mettent une feuille de cire sur les hausses pour aider les abeilles à construire. Nous, on a eu un projet un peu fou, c'est de se dire on va enlever la cire et on va les laisser tout faire elles-mêmes. Donc c'est complètement aléatoire parce que pour construire la cire, il faut qu'il y ait des conditions climatiques qui soient particulières, qu'il n'y ait pas trop d'eau, mais qu'il y en ait un peu quand même, qu'il y ait certaines cultures. Et donc, on a fait ça une première année, il y a 2 ans. Ça n'a absolument pas marché. On a mis 30 ruches, on a tout perdu. C'était un four complet. Et cette année, on a réussi à sortir. Donc, l'idée, c'était aussi de faire des miels monofloraux. Parce qu'en général, on trouve des miels en rayon, toutes fleurs, sans trop d'indications. Là, l'idée, c'était de faire comme pour le miel. Donc là, sur le coup, ce que vous avez goûté, vous avez commencé par un miel de montagne. Enfin, par un miel d'acacia, pardon.
Qui un était peu neutre.
Un peu neutre.
Plus doux.
Tout
miel
à fait.
Miel d'acacia.
Voilà.
Tout ça, c'est dans la région lyonnaise. Hein,
non, celui-ci vient du Haut-Mâconnais.
D'accord. Oui, on n'est pas très loin.
Voilà. Tout à fait. Et donc plus léger. Et ensuite, on a enchaîné sur un miel de lavande, qui vient de la Drôme provençale, donc qui était forcément plus fleuri.
Donc ça veut dire, excusez-moi, que votre apiculteur lyonnais transhume.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Et on a fini par ce miel de montagne qui rappelait justement ces essences un peu montagneuses, donc avec de la bruyère, avec du sapin, etc.
On résume vos arguments. Souvent, les apiculteurs peuvent aider nos amis les abeilles avec de la cire exogène.
Voilà.
Vous laissez les abeilles fabriquer leurs propres alvéoles. Mais là, vous faisiez une drôle de tête. Ça veut dire que vous faites partie des apicultrices, Béatrice Mathieu, qui aussi n'aidaient pas les abeilles. Vous les laissez faire.
Non, on les laisse faire.
Le miel au naturel.
On les laisse faire tout, en fait. Alors, il y a une grande bataille entre des puristes aujourd'hui d'apiculteurs, entre ceux qui sont pour la ruche varée, la ruche d'Adam.
Alors attendez, ruche varée, on est perdu.
Non, alors d'Adam, c'est la ruche à cadre traditionnel, on retire les cadres et comme ça, voilà. Et donc c'est vrai que moi je pratique une autre apiculture, on est un peu puriste, mais aussi parce que je ne suis pas dans une logique de production de masse, donc je me dis, si cette année je ne produis rien, tant pis, c'est pas grave. Et donc c'est un autre type de ruche où on enlève.
Que vous appelez comment du coup ?
La ruche varée.
D'accord.
Où on ne retire pas les cadres, donc on intervient très très peu sur les ruches, donc on perturbe très très peu les abeilles. Mm-hmm. Et donc, pour qu'elles construisent tout de même leur cadre elles-mêmes de cire et d'alvéoles, je mets une amorce, c'est-à-dire sur la petite barrette du cadre, une petite amorce de cire, mais c'est un trait de cire qui est millimétré, voilà. Et puis, elles construisent toutes seules, quoi.
Et donc, tout ce travail est de surcroît effectué dans un contexte urbain.
Voilà,
vous êtes au sud de Paris, pas très loin de la porte d'Orléans. C'est pas franchement, pour ceux qui pratiquent la voiture à Paris, c'est un peu le point chaud du trafic, ou l'un de ces points chauds. Hein.
Mais il y a plein de ruches à Paris, sur les toits, oui. Hein, et puis après dans plein d'immeubles. Mmh. Et
y compris
une très grande agence de publicité, à Pantin, qui a mis des belles ruches sur son toit.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, notre ami Julien Henry a même installé des ruches, on peut le révéler.
Sur le toit du Printemps.
Printemps, on parle des grands magasins.
Nation, oui, le magasin Le Printemps. Qui ont ouvert un nouveau projet autour de la gastronomie française et qui avaient à cœur de mettre du sens dans le sourcing de leurs produits.
C'est ça.
Et du coup, ils ont gentiment fait appel à nous et on a posé des ruches l'année dernière. On a fait une première récolte en août cette année. Et voilà.
Il n'y a pas, Béatrice Mathieu, que des bonnes nouvelles dans le contexte du miel. Je lis un extrait de Le Miel, enquête sur l'or jaune, le document édifiant que vous avez signé avec François Roche aux éditions François Bourin. Dans un monde rêvé, nous irions chercher notre miel directement à la ruche. Nous goûterions alors au nectar de Zeus sans intermédiaire, nous gorgeant du parfum et de pollen comme le font encore les membres de la tribu Gurung au Népal. Sans recourir à ces moyens extrêmes, nous aimerions récolter le miel directement à la ruche, sinon les nôtres, du moins celle du voisin, comme autrefois on se rendait dans une ferme des alentours pour se faire remplir un bidon de lait, encore chaud et mousseux. Ce serait un peu notre miel, nos abeilles nourries de nos plantes et fleurs. Sauf qu'on est confronté à cette triste réalité que vous dénoncez dans votre livre. Le miel est non seulement devenu une matière première agricole qui s'échange sur les marchés mondiaux dans des barils en métal de 300 kilos, mais c'est une matière première en plus qui est victime de pratiques frauduleuses. Et vous avez dans le viseur un pays en particulier, la Chine.
Oui. Alors c'est vrai que quand on voit, on déguste ces miels là qu'on a fabuleux, on a l'image du petit apiculteur, le truc sympa, etc. Et en fait, derrière cette image-là, mais il y a une vraie industrie du miel, un vrai marché qui, contrairement à peut-être le cacao, le blé, le café, qui est très organisé avec des cotations qui se font sur des bourses, hein, comme on cote une action d'une entreprise, etc. Bah, il y a des cours quotidiens du cacao ou du blé. Eh bien, le marché, lui, n'est pas organisé.
Mais il est
malgré tout très mondialisé. Donc,
c'est cette
caractéristique avec un marché extrêmement éclaté entre des millions de petits apiculteurs et en même temps de très très gros grossistes, fournisseurs qui vont se fournir un petit peu partout dans le monde. Et ce qui s'est passé au cours des deux dernières décennies, c'est un acteur majeur est arrivé sur le marché mondial du miel. Bien, c'est la Chine et qui a un peu tout bouleversé avec des méthodes qui interrogent beaucoup.
Parce qu'il y a des chiffres édifiants que j'ai récoltés dans votre livre. La production chinoise a doublé en 15 ans. Les exportations chinoises ont augmenté de 200% entre 2007 et 2015, alors que le nombre de ruches n'a augmenté que de 13%. Ce chiffre est d'autant plus bizarre que des régions entières de Chine manquent par ailleurs, pour d'autres raisons qu'on va évoquer dans cette émission, manquent cruellement d'abeilles. Dans le Sichuan, dites-vous par exemple, la pollinisation des arbres fruitiers, en particulier des pommiers, qui est la spécialité locale, eh bien elle doit se faire à la main par des milliers d'ouvriers agricoles, faute d'abeilles. Comment expliquez-vous alors qu'il y ait une telle recrudescence du miel chinois alors que les abeilles là-bas se raréfient et sont souvent d'ailleurs victimes de pratiques agricoles extrêmement chimiques?
C'est bien le problème. C'est comme disent les économistes dans un année, ça boucle pas, l'histoire boucle pas.
Il y a un loup.
Il y a un loup, il y a un problème dans le pot de miel.
Voilà.
Oui, les trigatelles du miel, pour faire référence à L'Eloulakis, le film de Claude Zidi sur l'industrialisation de la gastronomie, absolument. Disons-le tout clairement, du miel que l'on consomme parfois, et c'est par cet argument que je commence à l'émission, du miel que l'on croit consommer comme étant du miel n'en est peut-être pas, pas forcément pour ou partie,
voilà, c'est-à-dire des miels dans lesquels on aura rajouté de l'eau, dans lesquels on aura rajouté des sirops de sucre, des miels qui sont frelatés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'un côté effectivement des problèmes environnementaux que connaît la Chine, qui sont monstrueux, avec des pertes de colonies que la Chine rencontre aussi, comme nous rencontrons nous aussi en Europe ou aux États-Unis. Et d'un côté, cette explosion de la production et cette explosion des exportations. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a fort à s'interroger sur ce qu'arrive dans des conteneurs dans le port de Hambourg.
Un rapport du Parlement européen rédigé en 2013 et intitulé quand même « Rapport sur la crise alimentaire, la fraude de la chaîne alimentaire et son contrôle » classe le miel parmi les produits victimes d'activités frauduleuses, des miels coupés au sucre ajouté ou même carrément des miels de synthèse. Car vous le dites dans votre livre, la recette d'un miel de synthèse est finalement à la portée de tout chimiste du dimanche. Il suffit d'avoir du glucose, du fructose, du maltose, de l'acide gluconique, semblable à celui que produisent les abeilles, une ou deux enzymes, de l'eau, des pollens, éventuellement des arômes de fleurs de synthèse. Et le tour est joué. Ça arrive régulièrement que...
Régulièrement, non. Mais parce qu'on ne peut pas contrôler chaque kilo de miel qui arrive sur le territoire européen. Mais il y a eu effectivement des fraudes qui ont été constatées. Et c'est vrai que les autorités européennes, que ce soit les autorités sanitaires ou les questions d'autorité de la concurrence européenne, se sont saisies du sujet. Et aujourd'hui, disent que la question du miel est... quasiment aussi importante que le scandale de la viande de cheval.
Mais pourquoi ? Mais justement, alors, on a fini par déceler, il y a quelques années, de la viande de cheval dans des lasagnes ou des plats cuisinés. Pourquoi est-ce aussi difficile de déceler des miels frauduleux ? Pourquoi est-ce aussi compliqué à surveiller, finalement ?
Bah, d'une part, parce qu'aujourd'hui, les contrôles se font plutôt au départ de Chine, plutôt qu'à l'arrivée en Europe.
Souvent par le port de Hambourg, d'ailleurs,
souvent,
en Allemagne.
Qui est devenu aujourd'hui la plaque tournante, en fait, des arrivées de miel en Europe. Mm-hmm. Le miel arrive donc dans des grands containers et est acheté par des sortes de grossistes européens qui vont après couper ces miels avec d'autres miels qui peuvent être de très bonne qualité, etc., pour faire baisser le prix final du miel pour le consommateur.
On a fait ça avec le vin pendant des siècles. On fait ça avec le lait. Enfin, toute notre alimentation est émaillée de ce genre de situation qu'on comprend bien d'ailleurs, puisque il y a une différence quand même là entre ce qu'on disait, c'est qu'avec le miel, c'est pas comme la viande de cheval. La viande de cheval ou de kangourou ou de je sais pas quoi, les gens qui bouffent des lasagnes, de toute façon, vu le goût que ça a quand c'est dans la lasagne, je pense que ça serait même de la céréale, ils s'en foutraient complètement, même si c'est terrible comme sujet, mais bon, c'est pas... Alors que là, on est vraiment sur autre chose. C'est-à-dire, là, on est en train de synthétiser quelque chose et donc de nous vendre soi-disant un produit issu de la nature, alors qu'en fait, comme d'hab, c'est un produit issu de cuves en inox.
Julien Henry, situation alarmante ?
Situation alarmante, je pense que de toute façon, l'industrialisation n'apporte pas grand-chose de positif à l'alimentation en général. Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Il y a un problème en effet avec les miels chinois. Après, pour être acteur de ce milieu et parler aussi bien avec des Chinois qu'avec des Français, etc., les Chinois vous disent... on vous vend au prix que vous nous achetez. C'est-à-dire que si les Chinois sont capables de faire très bien, c'est le plus gros pays producteur de miel au monde. Donc de toute façon, il y a aussi bien... Enfin, c'est normal qu'il y ait plus de mauvais.
Mais il y a des bons miels
après,
chinois.
Pour moi, là...
Il y a des bons miels chinois. Simplement, vous précisez les prix. 1,50€ le kilo de miel chinois, globalement. 5€ le kilo en Europe.
C'est aussi la faute du consommateur aussi. Le consommateur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut pas payer très cher, il veut un miel qui cristallise pas, qui bouge pas dans le temps, qui soit tout le temps, qu'il arrive facilement à tartiner.
Un produit standardisé, comme bien d'autres d'ailleurs.
Un produit standardisé, et donc on leur fournit
un
produit standardisé.
Il a bon dos, le consommateur, vraiment.
Mais Julien Henry, vous vouliez quand même un peu tempérer cette oui, réalité de dénoncer la Chine, dans la mesure où si on importe, si je comprends votre raisonnement, des produits, des miels chinois, c'est avant tout parce que nous-mêmes, nous avons quand même parlé ravage de notre propre agriculture, gâcher les chances de nos apiculteurs aussi en France.
C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on consomme en France environ 40 000 tonnes de miel, on en produit plus que 8 000 à peine l'année dernière, donc forcément, il faut qu'on en importe. Après, la responsabilité de ça, c'est la responsabilité des importateurs, donc des sociétés françaises. Et si on veut prendre le problème à la racine, le vrai problème, c'est l'agriculture. Et en France, on est à la traîne devant bien des pays, et ce qui fait que l'agriculture est dans cet état en France et qu'on a si peu de production, c'est de notre faute à nous. Et en effet, il y a ce miel chinois qui n'est pas toujours bien fait. C'est un pays qui a ce marché à disposition. Il en profite, comme le ferait tout le monde, je pense. Mais voilà, essayons de balayer devant notre porte et d'essayer de nous améliorer nos process dans l'agriculture, dans l'apiculture aussi, parce qu'il y a des problèmes dans l'apiculture en France.
Mmh. Et vous plaidez pourquoi, en gros, pour, par exemple, plus de contrôle?
Sur des appellations, par exemple, en France, qu'il soit clair qu'on arrête de ces appellations origine UE, non UE, etc.
Oui, parce qu'alors, il y a effectivement, visiblement, une déficience d'information sur les étiquettes des miels qu'on nous vend en supermarché. On peut trouver, c'est presque impossible à déceler, d'ailleurs, les origines d'un miel, puisque on a soit miel, mélange de miel originaire de l'UE, Union Européenne, ou mélange de miel non originaire de l'UE. Vous dites dans votre livre, on est au moins sûr d'une chose, ce miel vient de notre planète.
Voilà, donc c'est la seule chose, en fait, c'est la seule indication que nous donnent c'est les étiquettes.
Vous plaidez donc pour un renforcement de ces mentions sur les étiquettes?
Ça, effectivement, toute la filière apicole en est totalement convaincue. Ils sont quand même un peu en train de travailler là-dessus, quand même.
Je pense que c'est traçabilité là, c'est pas pour demain.
Juste pour le contrôle, Julien Henry.
Pour le contrôle, il y a une résolution qui a été proposée justement pour changer ça. Le syndicat français des miels vote contre cette résolution parce qu'il n'y a pas d'harmonisation avec les autres pays. Et voilà, mais ce sera tout à notre honneur, si vous voulez, d'être un peu le porte-parole et le flambeau des bonnes pratiques.
Mais vous signalez quand même l'émergence d'une nouvelle technologie qui est en train de faire son apparition et qui permettrait d'être beaucoup plus précise sur le décryptage et l'analyse des miels, la résonance magnétique nucléaire, RNM, qui permet de détecter notamment les ajouts frauduleux de sucre exogène, quelle que soit leur origine.
C'est vrai qu'on arrive aussi tout de suite à déceler très rapidement, du coup, un miel frauduleux. Le truc, c'est que cette technologie-là, aujourd'hui, concrètement, sur les sociétés apicoles, il n'y en a qu'une seule qui doit la posséder. C'est peut-être le plus gros importateur de miel chinois. Donc,
c'est le plus gros.
Et après, il y a des laboratoires aussi qui sont privés, qui la proposent. Mais il faut savoir que c'est des coûts aujourd'hui exorbitants. Quand vous voulez faire les résidus de pesticides, d'antibiotiques sur le miel, vous en avez 5 pages et vous vous retrouvez avec des prix qui ne peuvent pas être assumés par un petit apiculteur.
Et pourquoi la DGCCRF, par exemple, qui régulièrement contrôle la conformité des miels, comme en 2013, où sur 138 échantillons analysés, seule la moitié était à peu près conforme, ce qui fait peur. C'est ce que vous citez comme chiffre dans votre livre, Béatrice Mathieu. Pourquoi cet organisme ne s'équipe pas justement de moyens plus précis ou faut des contrôles plus réguliers, budget?
Je pense que c'est public. Du budget, et voilà, après c'est peut-être aussi une certaine politique. Enfin, je le vois à mon échelle, on arrive à contrôler des petites sociétés comme nous. Cette année, on s'est fait contrôler 3 fois. On est 4 personnes, on est ridicule en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que les grosses sociétés sont autant contrôlées? Je ne suis pas sûr. Voilà.
On va revenir dans un instant sur, heureusement, de très bons miels, de belles provenances que vous nous avez apportées et que vous allez nous faire goûter. Vous ne partirez pas non plus de ce studio, Julien Henry, sans nous avoir donné votre recette de pain d'épices. Mais on fait une petite pause liquide avec notre ami Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Bien évidemment, le miel nous évoque énormément d'images par rapport au vin. On pourrait se plonger dans Hippocrate, vous vous souvenez, cette boisson moyenâgeuse où on mélangeait bien évidemment du miel. Le miel était d'un usage courant pour conserver, puis avec l'addition d'aromates et d'herbes.
Vous avez lu votre Apicius.
Voilà, on retrouve. Alors bien évidemment, il y a aussi les boissons à base de miel qui sont intéressantes, mais je vais rester dans l'univers du vin, mon grand territoire. Et l'eau de miel, ça peut passer par évoquer tous les cépages qui ont ces goût mélifère, quand on veut jouer les savants.
Mélisse en latin, miel, hein, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Et donc, le premier des cépages le plus implanté dans le monde et qui a le goût de miel, c'est simplement le chardonnay. Ce fameux chardonnay qui rayonne dans la Grande Bourgogne. Quand on prend un grand meursault ou un grand puni Montrachet, il y a toujours, quelle que soit la richesse du millésime, des notes mielées. Puis aussi, bien évidemment, tous les liquoreux, nos sauternes, nos Montbazillac, nos vendanges tardives. N'importe quel dégustateur amateur ou professionnel va plonger à un moment donné dans cette description autour du miel. Alors le côté positif quand on sent le miel dans le vin, c'est qu'il faut que ce soit autre chose. Le miel, notre mielé doit être accompagné soit de fruité, soit de notes florales. Et là, on a la vraie complexité du vin. Parce que si on a simplement le miel, c'est que du sucre et c'est ennuyeux. Donc encore une fois, c'est comme l'acidité, toutes ces notes sucrées, c'est un vecteur, c'est une route, qui est un chemin qui vous amène ailleurs. Alors, moi, je pouvais penser à vous décrire pas mal de vins autour du miel, puis d'un seul coup, j'ai pensé à... Mais nous sommes en hiver, mais il fait beau,
vous
sur les cimes, dans les belles montagnes. Et j'ai fait une dégustation récemment pour un grand salon professionnel qui s'appelle Millésime Bio, fin janvier, début février à Montpellier. Je goûtais plein de vins blancs, dont une série de vins blancs de Savoie. Et dans les vins blancs de Savoie, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. C'est un vignoble, deux mots sur la Savoie. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Jura comme étant vraiment le nouvel Eldorado, des vins nature, des grands vignerons. Mais on oublie que la Savoie fait à peu près 2000 hectares, à peu près comme le Jura, et que potentiellement, il y a des terroirs extraordinaires. Le malheur de la Savoie, c'est l'or blanc, c'est bien évidemment tous ces stations de sport d'hiver et ces cahutes remplies de sandwichs très chers et pas bons, et de fameux vins blancs de Jacquère et de Mondeux, terrible cépage de mon point de vue, surtout la Jacquère. Mais il y a le Bergeron. Le Bergeron, c'est quoi le Bergeron? Le Bergeron, le Chignon Bergeron, c'est de la Roussanne. Et la Roussanne, c'est peut-être sûrement la concentration absolue du miel dès qu'on pense au vin blanc. Et le Chignon Bergeron, c'est une petite appellation parmi la grande famille des vins de Savoie. C'est vrai que la Savoie, c'est compliqué, il y a tellement d'appellations. Chignon Bergeron, c'est 90 hectares, rien du tout, 5% de l'appellation globale de la Savoie. Mais c'est un blanc extraordinairement miellé qui commence assez ferme au départ. C'est-à-dire que c'est presque, c'est muet, ça bouge pas, c'est très peu d'expression. Et dans le verre, ça prend du volume, ça prend du gras et ces fameuses notes miellées. Alors la Roussanne, on la trouve dans le Rhône aussi. On la trouve en Hermitage, en Creuse-Hermitage, en Saint-Joseph. Vous avez même une célèbre cuvée Roussanne Vieille Vigne de Châteauneuf-du-Pape, fait par le domaine Beaucastel. Mais je reste en Savoie, et le Bergeron, il est pour moi aujourd'hui le grand vin blanc de montagne à découvrir. Ça coûte pas très cher.
C'est celui qui est dans nos verres ?
C'est celui qui est dans notre verre. Alors en fin de compte, il y en a un qui m'a fait craquer cette semaine, mais j'ai vidé la bouteille. Ah. Donc je ne voulais pas amener. J'ai amené un petit frère.
Alors, il est partageur, l'ami Gerbel.
Mais oui. C'était tellement bon, que quand vous êtes bien entouré, vous savez, ça part très très vite.
Oui.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans Chignon Bergeron, il y a une famille, on va dire une fratrie, ils sont cousins, ils s'appellent tous Quénard. Donc il y a une demi-douzaine de vignerons qui s'appellent Quénard. Donc j'ai bu, le premier que j'ai bu cette semaine, c'était Claude Quénard. C'est un vigneron bio, c'est très très beau son Chignon Bergeron. Et donc je ne l'ai plus, Claude Quénard. Mais là, je vous ai amené un lointain cousin qui s'appelle également Quénard.
Qui va sortir de sa chaussette.
Mais lui s'appelle Pascal et Annie.
Voilà. Alors, petite réaction autour de la table. On peut quand même dire qu'on a l'impression d'avoir le nez dans la ruche. Hein. Béatrice Mathieu ?
C'est incroyable. Effectivement, quand on le hume, c'est incroyable. Cette odeur de miel, c'est...
Ouais, et mais tout en délicatesse en même temps.
Mais qu'on n'a pas après en bouche.
Oui, c'est un peu comme notre dégustation de miel tout à l'heure.
C'est pas sucré. Il y a peut-être même une légère amertume qui est...
Tout à fait.
Très bien.
Et la mer est importante dans le miel aussi, je crois.
Moi, je dirais que c'est plus cireux, en fait, comme miel.
Ouais. Arnaud Daguin.
C'est vrai que c'est ce que disait Antoine, souvent, quand c'est miellé et rien d'autre, c'est un peu emmerdant. Même beaucoup. Et là, c'est pas le cas.
Oui.
On est extrêmement bien structuré. C'est justement ce qui porte ces arômes-là sans les rendre.
Trop ça reste molasson, vertical et droit quand même en bouche. Hein.
Alors moi, je l'ai appelé cette Roussanne, des montagnes. J'ai appelé ça la bimbo des montagnes. Pour moi, parce que elle a vraiment ce côté. Voilà.
Elle montre ses formes.
Elle montre ses formes et faut ne pas hésiter encore une fois aussi à réchauffer un peu les vins blancs. Je pense qu'on boit. Évidemment, en montagne, on les boit beaucoup trop frais. Mais même à la maison, on les boit un peu trop frais. Vous savez que les grands vins blancs qui ont vraiment de la texture et de la qualité, il faut les habituer à monter un peu en degré. Voilà. Donc, je vous rappelle, donc, ce qu'on vient de déguster, c'est Chignon Bergeron, qui s'appelle Sous les Amandiers, du domaine Pascal Yannick Quénard, et l'autre Quénard. Alors là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, l'autre Quénard, donc le fameux Claude. Vous savez où il habite?
Le fameux vin qu'on n'a pas pu boire.
Pour que vous n'avez pas pu boire. Vous connaissez le lieu dit?
Non.
Ça s'appelle La Gerbel.
J'ai
pas envie.
On
est à côté de Chambéry, voilà.
Mais quel extraordinaire.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du budget concernant cette cuvée Sous les Amandiers?
Alors, départ cave, de préférence, avant le début des sports d'hiver. Il en reste encore un peu en cave. On est autour de entre 11 et 13 euros.
Comme bien souvent d'ailleurs en Savoie.
Et la bouteille que je vous amène aujourd'hui, je l'ai achetée chez un grand caviste parisien, 20 euros. Donc voilà, c'est à peu près la marge.
Et ben voilà, un Chignon Bergeron aux délicats arômes miellés. Merci beaucoup Antoine Gerbel. Toutes vos informations sur notre site, on va déguster sur franceinter.fr. Petite question qui me vient à l'esprit, Julien Henry. Le miel, on le regarde, on en contemple sa couleur, on évalue sa texture en bouche, on décrypte ses arômes. Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'il a une odeur, le miel? Quand on dit qu'il y a un parfum de miel à un vin.
Le miel a une odeur, mais pas l'odeur de son goût. En général, c'est pas des odeurs qui sont forcément très agréables.
Plus floral aussi.
Voilà. Peut être un miel de sarrasin, par exemple, qui vient de Bretagne. On a tendance à dire qu'il sent la porcherie. Parce que c'est vraiment une horreur.
C'est une odeur de purin.
Un miel de thym peut avoir des odeurs un peu chimiques aussi, vraiment.
Mais vous, Julien Henry, le petit génie du miel, vous arriveriez à déceler, par exemple, à l'aveugle, comme ça, uniquement au nez, l'origine d'un miel? C'est compliqué.
L'origine, non.
Oui, non, impossible. Non, non. Arnaud Daguin.
C'est ça qui rend son usage en cuisine délicat. Au miel, parce que selon les pratiques qu'on a, on peut très bien libérer le côté obscur de la forme.
C'est ça.
Et ces arômes-là, quand ils arrivent dans un plat et qu'ils ne sont pas invités, c'est vraiment
surtout dans une cuisine un peu asiatique.
Exactement,
avec une sauce soja et tout ça.
Et
les dérives sont
beaucoup
très rapides.
De mal avec ça. Ouais. Mmh. Ouais.
D'autres surprises dans les pots de Julien Henry et également Béatrice Mathieu qui va nous faire goûter son miel fait en périphérie urbaine, pas très loin au sud de Paris. Le coup de l'âme ou plutôt le coup d'aile de Arnaud Daguin. Et puis évidemment, la fameuse recette de ce pain d'épices dans un instant, juste après Angel Fire, Holy Cook, soyez bien sur France Inter. Et les dérives du miel au menu dont on va déguster en ce dimanche 14 janvier. Nous sommes avec Julien Henry, l'un de nos bons experts français à la tête de la Maison du Miel, une boutique ultra spécialisée dans le 9e arrondissement de Paris, où vous recevez tous les jours sauf le dimanche.
Tous les jours sauf le dimanche.
C'est ça. Et Béatrice Mathieu qui signe Enquête sur le nouvel or jaune avec François Roche aux éditions François Bourin. Vous êtes également apicultrice, on va le voir dans un instant puisque vous avez eu la gentillesse de nous apporter un échantillon de votre production. Juste avant, quelques questions d'auditeurs. Il y a évidemment, après ce qu'on vient de raconter, quelques auditeurs derrière leur poste un peu en panique, mais on est au supermarché ou dans une boutique, une épicerie, à quelle mention on se fie sur l'étiquette ? Pour repérer un miel artisanal dont on est à peu près sûr qu'il a une certaine authenticité.
Alors, pour moi, la première chose, la plus importante, c'est soit la variété, soit l'origine. Voilà, donc si c'est un monofloral, miel d'acacia de France ou de Haute-Marne, d'Alsace, comme on veut.
Là, il n'y a pas trop de risques.
Il n'y a pas trop de risques. On peut se fier à des labels, des IGP, des AOC.
Alors là, vous évoquez effectivement des signes officiels de qualité.
Des signes officiels de qualité qui sont en général très bien encadrés. Alors, il y en a qui sont un peu plus restreints que d'autres, donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus compliqués à trouver. Mais il y a aussi beaucoup de signes dont il faut se méfier et ne pas acheter. Par exemple, quand on voit un miel où c'est marqué miel pur ou miel récolté à froid, c'est pas de l'huile d'olive le miel. Le miel se récolte toujours à froid, c'est le cas de le dire. Donc, surtout, se méfier quand il y en a trop aussi. Voilà.
Oui. J'ai recensé d'ailleurs les appellations AOP pour le miel de Corse et le miel de sapin des Vosges, même si vous dites que le miel de sapin des Vosges, qui est en fait un miel A, hein,
oui. Qui est un miel A.
Ça veut dire qu'il est récolté dans les excréments.
Voilà,
de certains
c'est des exsudats de certains insectes comme la cicadelle, etc. Les abeilles se nourrissent de ces exsudats et le retransforment après, donc en miel A.
Voilà. Mais rarification de ce miel.
Alors, le sapin des Vosges, c'est un peu particulier, c'est parce que la zone qui a été délimitée pour ce label est très restreinte. Ils ont un cahier des charges qui est très, qui est très dur à tenir finalement, donc c'est un peu compliqué de le trouver. Bon, après, il y a des sapins qui sont très bien dans le Jura, dans les Alpes et dans plein d'autres régions.
Et sinon, IGP, indication géographique protégée, ça concerne le miel d'Alsace, le miel des Cévennes, le miel de Provence. Donc quand on tombe sur ces labels-là, on est à peu près sûr de tomber sur des miels de qualité. Petite question, Antoine Gerbel.
Est-ce que la couleur est un indice
important
sur la qualité d'un miel?
Ou je rajouterais presque la couleur et même la texture aussi.
La texture, la cristallisation ou pas.
Il y a des miels plus ou moins liquides.
En fait, le miel, c'est composé de différents sucres. Principalement, vous avez le glucose et le fructose. Quand un miel va être plus riche en glucose, il va avoir tendance à cristalliser beaucoup plus rapidement. Quand c'est du fructose, il va être plus liquide. Un miel comme l'acacia ou le châtaignier, qui est beaucoup plus riche en fructose, va rester liquide quasiment tout le temps. Donc, c'est pas du tout un signe de qualité. Un miel liquide n'est pas meilleur qu'un miel cristallisé. Un miel, ça vit, c'est un produit vivant.
D'accord. J'ai jamais vu le petit ours en plastique cristallisé à l'intérieur.
Parce que c'est souvent de l'acacia. Après, si vous avez un ours en plastique avec marqué miel de fleurs et qu'il est liquide, vous le laissez sur les rayons.
C'est ça. Il y a aussi une autre option, c'est d'avoir dans ses amis, dans son entourage, Béatrice Mathieu par exemple, qui produit son miel au sud de Paris. Attention, c'est votre heure, Béatrice. Julien Henry.
Je tremble.
Va déguster votre miel. Petite analyse sensorielle, chromatique, gustative, Julien Henry, du miel que nous a apporté Béatrice Mathieu.
De Cachan 2017.
Ah, 2017 en plus, il est tout frais.
Ouais, été dernier. Alors. À l'odeur, comme ça, on va dire, c'est principalement la cire qui vient, mais il est très liquide, donc on va
Attendez, vous êtes en train de dire que c'est un gros défaut? Non?
Ah non, pas du tout.
D'accord, pardon.
Ah non, j'analyse de façon pragmatique.
C'est très bien.
Et il est liquide, donc plus riche en fructose, je pense, mais au goût, ce qu'on ressent, c'est des notes légèrement mentholées qui rappellent vraiment, du coup, le tilleul.
Oui.
Et le tilleul, en général, cristallise. Donc je pense qu'il y a d'autres pollens, ce serait intéressant de le faire analyser.
Avec une couleur assez prononcée, plutôt ambrée. Mmh.
Tout à fait. Et en général, justement, le tilleul est blanc, oui, cristallisé, et donc je pense que ce serait intéressant, ça vous donnerait aussi une photographie de la flore que vous avez autour de
Parce que Béatrice Mathieu, c'est donc un tout de fleurs, ça veut dire qu'elle butine où vos abeilles?
Dans mon jardin.
Au bord du périphérique.
Dans mon jardin, ben oui, dans les jardins alentours, dans les jardins de la ville. Donc il y a des acacias qui sont pas loin, il y a beaucoup de cerisiers, il y a du tilleul, effectivement. Il y a des bordures de lavande, les jardins.
Votre miel a à peu près le même goût d'une année à l'autre ou pas?
Non, il n'a pas le même goût d'une année à l'autre. Il y a même des années où je n'en ai pas eu.
Ah.
Parce que moi, quand il n'y a pas beaucoup de production, eh ben je laisse tout mon miel aux abeilles. Donc je ne prends rien.
Parfait. Eh ben écoutez, félicitations. Voici un miel urbain. Produite en plus par quelqu'un qui a beaucoup de travail par ailleurs, félicitations.
Ce que je viens d'entendre, là, ça me fait très plaisir, parce que je discutais avec un monsieur du syndicat des apiculteurs français il y a quelques années, il me racontait, à cette époque-là, on en était déjà à avoir besoin, je crois, en moyenne, pour la production française, de 800 grammes de sucre pour fabriquer un kilo de miel.
Oh là là,
ce qui veut dire que...
Vous ne les nourrissez pas?
Non, moi je ne vais pas rentrer dans cette absurdité-là, mais aussi parce que je n'en tire aucun revenu. Moi je ne suis pas apicultrice professionnelle, je ne le vends pas. Donc les apiculteurs sont obligés de nourrir avec des pains de sucre dans lesquels il y a parfois des antibiotiques, des machins... Et ça fragilise aussi nos abeilles parce qu'elles n'ont pas les tubes digestifs en fait faits pour prendre du sucre.
Raréfication du miel et notamment du miel en France. 2016 a été Anus horribilis, ça a quand même été totalement une catastrophe. On va pas revenir sur la mortalité des abeilles, on en connaît à peu près les explications, même si c'est important de le rappeler. Mais bon, les pesticides évidemment contribuent activement à l'effondrement de nos colonies, on le sait. Il y a également des problèmes climatiques qui ont certainement pesé lourd dans la très faible production de miel en France.
Il y a toujours des aléas climatiques, ça a toujours existé. Cette année particulièrement, en 2017, c'est sur la Corse où par exemple il y a eu une très grande sécheresse qui a fait qu'on n'a quasiment pas eu de miel de châtaigneraie.
Peu de nourriture pour les abeilles.
Voilà, c'est ça.
Vous qui avez un spectre absolument inégalable de miel à Paris, étonnez-nous avec un miel.
Sans rien dire.
Enfin, sans rien dire, on commence par goûter puis on verra.
Je veux dire que c'est un miel qui vient du Gers.
Ah,
ça me touche particulièrement, vous remercie.
Vous savez d'où il vient, Daguin? Hoche.
De Hoche, dans le
Pardon, Hoche.
Là, c'est aux alentours d'Air-sur-la-Dour que ça vient.
D'accord. Allez, Arnaud,
d'avoir une confiture d'abricot.
Au boulot, sans regarder l'étiquette, je vous prie.
Cette texture me plaît beaucoup.
Crémeuse.
Ah oui,
c'est comme ça que j'aime le miel.
Naturellement.
Avec une incroyable couleur orangée, quand même.
Eh oui.
Quelqu'un saurait nous définir la variété de ce miel ou pas?
C'est compliqué.
Allez, lancez-vous, tentez.
Non, là, moi, il me rappelle rien de connu.
Exotique, il y a un côté un peu exotique. Moi, ça m'évoque la texture des mangues très mûres.
Il me rappelle aussi le goût du maïs doux.
Ah, mmh. Eh ben écoutez, c'est un miel de carotte sauvage.
Voilà.
C'est fleurs blanches,
oui, oui, trouve,
qui sont
oui,
incroyables.
Ah, oui.
Et on a des notes terreuses justement en fin de bouche. Alors, faudra peut-être le regoûter pour que vous tombiez dessus.
Mais pardon, mais un miel de carotte sauvage, vous orientez l'essaim d'abeille vers un champ de carotte sauvage? Comment ça se passe en fait
pour que ce soit c'est la transhumance. En fait, le travail des apiculteurs pour faire des monofloraux, c'est un travail de chaque instant. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps en saison donc à guetter la floraison des fleurs. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des fleurs qui fleurissent que 3 jours, voire une semaine. Donc, il faut que les essaims soient prêts à butiner, donc assez costauds pour ça, à la bonne période. Et il y a des années où on arrive à avoir des récoltes un peu surprises comme ça. Mais c'est complètement aléatoire. Je ne l'aurai pas l'année prochaine.
Mais on peut
exemple.
Utiliser, c'est-à-dire personne ne vérifie en fin de compte. Si vous avez envie de mettre carotte sauvage, personne ne va vérifier.
Ah, ah si, moi,
des analyses.
Oui, oui. Vous. Moi, je fais des analyses polliniques, des analyses de résidus. Oui, complètement. C'est quand même. Enfin, c'est très permissif, la législation sur le miel, mais après, il y a des gens sérieux qui font le travail et sur le coup, on le fait. Et donc, l'idée, c'est qu'il doit y avoir une prédominance. Alors, la première analyse pour le miel, c'est les analyses organoleptiques, donc le goût. Voilà. Après viennent les analyses physico-chimiques, donc sur lesquelles on voit les taux de dégradation du miel, etc. Puis les analyses polliniques, où là on a les pollens principaux, les pollens isolés, exogènes, etc. Et on arrive justement à confirmer des appellations comme ça.
Donc Julien Henry ne ment pas. Il s'agit bien de miel de carotte sauvage, tout à fait surprenant. Le coup de l'âme, ou plutôt le coup d'aile, d'Arnaud Daguin.
Sur France Inter, on va déguster.
Cuisinière, cuisinier. Amoureuses et amoureux de la picole. L'abeille coule, l'abeille coule, oh. L'abeille coule.
On s'arrête là.
J'ai réussi. Et l'essaim ? Eh bien, l'essaim tombe. C'est terrible. Car depuis le temps que nous sommes nourris par l'essaim, que l'essaim nous revigore, que nous aimons l'essaim autant qu'il nous aime, ça serait tragique de laisser l'essaim à plat.
Je suis sûr que vous allez faire le buzz, Arnaud.
Oui, François-Régis. Qui a touché l'essaim ? Si les abeilles meurent en masse, il faut donc identifier leurs meurtriers. On soupçonne les pesticides, les ondes électromagnétiques et de mystérieux virus, en partie. Mais n'y aurait-il pas, comme pour nous, un effet cocktail de petites causes discrètes individuellement, mais redoutables ensemble ? Plutôt que de chercher ce qui tue, pourquoi ne pas s'inquiéter de ce qui empêche de vivre ? Et s'il arrivait aux abeilles exactement ce qui nous arrive à nous, les humains ? Nous sommes ce que nous mangeons, n'est-ce pas ? Nul doute que les abeilles aussi. Nous savons bien que ce qui prévaut pour notre santé, c'est la qualité et la diversité de nos gamelles. Il semble donc que, comme l'homme moderne, les abeilles souffrent de nutrition stupide. Et le fait que souvent, on les oblige à cracher le miel, comme de pauvres vaches Holstein qui ont fait pisser le lait, n'arrange rien, bien au contraire. L'agriculture de ces dernières décennies a œuvré ardemment à réduire le menu des abeilles. Plus de haies, ni de bosquets, plus de lierres, ni d'aubépines sur des centaines d'hectares, plus de mares éparses, ni de floraisons étagées sur toute l'année. La déforestation est à l'abeille ce que l'épilation intégrale est au morpion, sa mort programmée. Nous avons perdu en 100 ans 80% de la biodiversité agricole. À force d'uniformiser, de rationaliser, de surproduire, nous avons tellement rétréci le champ de nos possibles nutritionnels que nous en sommes réduits à pallier nos carences à coups de compléments alimentaires. Les abeilles, elles, n'ont même pas ce maigre et dispendieux recours. Là encore, la solution, c'est l'agroforesterie. Aux abeilles aussi, il faut de la biodiversité à table. Leur avenir aussi est dans l'assiette. Et leur plat de prédilection, c'est l'arbre. Les arbres, les plus variés possibles, pour elles comme pour nous, plus bigarré sera le choix, meilleure la santé sera. En associant de façon systématique l'arbre à nos productions agricoles, nous pourrons redonner aux abeilles, domestiques ou sauvages, un cadre de vie en phase avec leurs besoins. Bordons les chemins et les routes de haies variées, alignons les fruitiers, les bois d'œuvre et de chauffage dans nos céréales, faisons brouter des moutons sur nos légumineuses, abritons nos moutons sous des abricotiers, élevons des vaches sous les pommiers, des cochons et des volailles sous les chênes et les châtaigniers. C'est en aidant la nature à rester généreuse, et non pas en prétendant faire le boulot mieux qu'elle, que nous arriverons à regonfler les seins et accessoirement à nourrir proprement 10 milliards d'humains. Aux arbres, citoyens.
C'est une ruche idée, Arnaud. Mangeons, mangeons.
Buvons plutôt, François-Régis. Je dois vous avouer qu'autant j'aime le miel sur une tartine, autant je n'ai jamais vraiment trouvé de place pour lui dans ma cuisine. Alors c'est un cordial que je vous propose en ce dimanche d'hiver, un cocktail pour résister au frima et se moquer de la grippe.
Sans alcool, je suis sûr.
Presque. Délayez donc une cuillère à café de miel d'acacia dans 4 centilitres de très bon gin. Mm-hmm. Ajoutez 2 gouttes d'extrait de propolis, râpez là-dessus un peu de gingembre frais, versez-y le jus d'un demi-citron bergamote et noyez le tout d'eau gazeuse. Vous voilà parés pour l'hiver. Allez, butinez-vous les uns les autres et vivez joyeux!
Très bien, bravo. Eh bien, écoutez, on est bien d'accord avec les arguments que vous avez développés. Butinons dans votre discours. Julien Henry, ouais. Est-ce qu'on est très alarmiste en posant la question de savoir si un jour le miel sera tellement rare et cher, voire confidentiel, qu'il sera compliqué d'en manger au quotidien ?
C'est déjà un peu... On n'en est pas loin.
On s'en rend pas trop compte encore.
Mais ça a toujours été, François-Régis. Le miel n'a jamais été un produit populaire de grande consommation. Ça a toujours été un produit précieux,
je veux dire par
avec
là
des
que...
usages précis.
Je veux dire par là que lorsque l'on va, on veut manger un bon miel pour ses tartines, on se dirige par exemple dans le commerce de Julien Henry,
voilà.
Et on n'est pas obligé de se couper un bras pour s'acheter un pot, et ça reste un produit de consommation relativement quotidienne.
On n'est pas obligé d'en bouffer un demi-kilo par jour.
Ça, on est bien d'accord.
Aussi.
Mais est-ce que, en gros, est-ce que les prix risquent d'augmenter ? Est-ce que c'est, il y aurait une inflation tel que ça deviendrait un produit de luxe absolu.
Même nous, on le voit aujourd'hui, parce qu'avec les listes de résidus qui s'agrandissent et on a de plus en plus d'analyses à faire, et si on veut faire le travail sérieusement et garantir une qualité, les prix augmentent. Et puis, vu qu'il y a moins de production, les apiculteurs ont du mal à survivre, donc il faut qu'on leur achète aussi leur production plus chère si on veut avoir des variétés de miel un peu sauvages comme on a nous. Donc, voilà.
Petite question d'un auditeur, faut-il préférer le miel bio ? C'est vrai qu'on s'en mêle un peu, hein. On s'en mêle un peu les pinceaux entre le cahier des charges d'un miel conventionnel et le cahier des charges d'un miel biologique.
Le bio, on le préfère pour tout ce qui sort de la terre. Tous les végétaux, c'est génial, c'est ce qu'il y a de mieux et ça fait du bien aux abeilles. Pour le miel, c'est un peu plus compliqué parce qu'une abeille vole entre 3 et 5 km autour de la ruche.
Ouais.
Donc déjà, on peut pas la téléguider.
C'est vrai.
Le cahier des charges est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des traitements parce qu'aujourd'hui, les abeilles subissent de front les attaques du varroa notamment, etc.
Les parasites, hein, voilà. Le frelon. Vous évoquez d'ailleurs toutes ces questions.
Et donc, vous avez des traitements. Par exemple,
asiatique.
Dans le bio, on va autoriser par exemple l'acide formique. Dans le conventionnel, on va autoriser l'amitraze, qui sont deux produits extrêmement chimiques, extrêmement nocifs et pour les abeilles et pour l'apiculteur. Mm-hmm. Donc c'est bof. Sur le cahier des charges, principalement, pour avoir une appellation bio, il faut que la ruche soit située dans un environnement de 3 km où il y a au minimum 50% de culture bio. Donc moi, par expérience, on a des miels biologiques qui sont de meilleure qualité que des conventionnels et des conventionnels qui sont de meilleure qualité que des biologiques. Il n'y a pas de règle.
Vous répondez à notre question très très brièvement, mais alors vraiment sans rentrer dans les détails, citez juste quelques variétés de miel comme ça, juste pour anticiper le plaisir qu'on va avoir après l'émission de les consommer.
Alors vu que je ne suis pas très chauvin, je vous ai ramené un peu de miel du monde. Je vous ai ramené d'un miel de menthe d'Argentine qui est incroyable, dans lequel on retrouve, et c'est très rare, quelques arômes de menthe un peu végétale qui sont très bien, par exemple pour un thé à la menthe, au lieu de mettre du sucre, c'est mieux. Un miel d'avocatier du Mexique.
Ah ouais,
aussi.
Très noir. Hein.
Très très noir.
Un peu amer.
Qui a un arôme de truffe,
ah
principalement,
ouais,
et qu'on peut utiliser pour condimenter un fromage, par exemple.
Oui.
Je vous ai ramené des miels de houx, des miels d'aubépine, qui sont des variétés de végétaux qui étaient très utilisés dans les haies, dans les champs avant. Et aujourd'hui, avec les cultures intensives, ça disparaît. Donc ces miels disparaissent aussi, et c'est fort dommage, parce que c'est des miels qui, dans la pharmacopée, étaient très utilisés auparavant, même pour les pains d'épices. Je vous ai ramené du bruyère blanche, qui a un goût
justement
caramélisé.
Vous avez prononcé un nom, là. On finit avec la cerise sur le gâteau, ou plutôt la cerise sur le pain d'épices.
Le pain d'épices.
Vous avez 30 secondes pour nous donner la recette de ce fabuleux pain
d'épices. C'est la recette de monsieur Olivier Rollinger qui nous a fait une création d'épices absolument formidable dans lesquelles il met de la cannelle, du gingembre et de l'anis vert que vous pouvez trouver chez lui, donc aux épices Rollinger, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire
dans un mortier,
mélange,
par exemple.
Voilà. Et à ça, 250 g de farine, 50 g de sucre roux, une cuillère à café de bicarbonate de sodium, 2 cuillères à café de poudre, donc de poudre de pain d'épices ou de votre mélange perso, 3 cuillères à soupe de miel, un grand verre de lait. Vous mélangez tout ça, vous laissez reposer un quart d'heure et vous mettez à 150 degrés pendant une heure. Et voilà.
Vous avez fait incroyablement court. C'est aussi simple que ça. Et la recette est en plus à retrouver. Il est bon, hein.
Et vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des éléments, soit à la maison du miel, soit chez lui.
Pas trop sucré.
Et quel miel vous avez dit ?
Donc c'est un miel à du maquis corse qu'on a sélectionné ensemble avec Olivier Rollinger, qui vient de chez Franck et Colin Dupré, qui sont des apiculteurs qui travaillent extrêmement bien sur cette île.
Le miel à du maquis corse, évidemment. Super, merci beaucoup Julien, Henri, et merci pour cette belle leçon de pain d'épices. La recette à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Béatrice Mathieu. Le miel, enquête sur le nouvel or jaune, écrit avec votre ami François Roche, édition François Bourin, pour ouvrir les yeux notamment de certains apiculteurs et puis sur la réalité, parfois dramatique, il faut bien le dire, du miel. C'est donc aux éditions François Bourin. Il y a aussi votre miel, mais ça par contre c'est confidentiel, c'est seulement si on vous connaît, hein, c'est ça. Vous ne le commercialisez pas. On en est très triste. Les merveilles du miel chez Tana Édition par la Maison du Miel. Très beau livre, très explicatif, très didactique, avec un certain nombre de recettes. Vous l'avez écrit avec la journaliste Camille Labreau. Et puis Julien Henry, vous nous rappelez l'adresse de votre Maison du Miel.
24 rue Vignon, dans le 9e arrondissement, à côté de la place de la Madeleine.
Pour retrouver toutes vos merveilles, merci Arnaud Daguin, merci Antoine Gervel. À la prochaine, merci. Les amis. Et la semaine prochaine, on vous raconte l'étonnante aventure d'un intellectuel et spécialiste d'Hergé, de Derrida, de Paul Valéry, qui est tombé, figurez-vous, dans la marmite. Benoît Peters nous raconte sa conversion gastronomique en bande dessinée. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.